Radio Foot International, spécial UEFA Euro 2024 avec Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot International en ce lundi début de semaine et lendemain de finale. Et viva España, les Espagnols sur le toit de l'Europe après leur victoire hier soir en finale de l'Euro. Victoire 2-1 sur des Anglais décidément maudits. Tout le monde salue la récompense du beau jeu. La Roja a séduit le public, elle a remporté tous ses matchs. Et sa jeune génération, portée au pouvoir par Luis de la Fuente, laisse entrevoir d'autres matins qui chantent. La Copa América pour l'Argentine, un sacre à l'arraché grâce à un but en prolongation de Lautaro Martinez. Les champions du monde et d'Amérique du Sud font l'histoire, tout comme leur capitaine éternel, Lionel Messi. L'Espagne en fête et Madrid prêt à accueillir sa nouvelle star, sa nouvelle recrue. Ce sera demain à Santiago Bernabéu et son nom c'est Kylian Mbappé, bien sûr. Et puis nous retrouverons Hugo Moissonnier, vous avez l'habitude de le retrouver le lundi, eh bien il sera là tout à l'heure dans l'émission et il vous expliquera ce qu'il est en train de préparer pour ses prochains jours. Mais dans ce studio, aujourd'hui on a eu une bonne idée, on a invité deux champions. Alors, deux champions récents, on va dire. Alors d'abord, Manu Teradij, bonsoir ou bonjour, ou hasta buenas tardes.
Buenas tardes, bonsoir.
Teradij, alors en plus, Manu, on vous avait vendredi, hein, donc vous étiez presque le seul à croire à la victoire de l'Espagne, je me souviens.
Moi, j'étais étonné de cela, ouais.
Les autres nous disaient tous Angleterre, oui. Et oui, ils vont enfin vaincre le signe indien, Bruno, n'est-ce pas? Mais présentons d'abord l'autre champion
bien
aussi,
sûr.
Et presque double champion, triple champion même ce jour. Alejandro Valente, bonjour Alejandro.
Bonjour Annie.
Alors c'est plus récent, hein, c'est il y a quelques heures, parce qu'on va expliquer, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de prolongations, bon bref. Mais l'Argentine, sacrée, vous êtes content?
Ça devient une habitude, mais c'est
toujours
bien.
Un peu trop, mais bon, on imagine. Et c'est pour ça qu'on avait envie que vous soyez avec nous aujourd'hui, comme au bon vieux temps, n'est-ce pas, Alejandro? Alors, il y a un perdant dans le studio. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour à tous, ça va? Moi, je n'ai pas perdu grand-chose. Hein. Ouais. Moins d'honneur que les Anglais, en tout cas.
Ah ouais, c'est vrai. On va en parler aussi. Et puis, Sheriff Gaymour, il aura un regard un peu en apnée, au-dessus du lot aujourd'hui. Bonjour Sheriff.
Bonjour Annie, bravo à l'Espagne, bravo à l'Argentine.
Hein, n'est-ce pas?
Ouais.
C'est vrai que surtout cette finale nous a enchantés, mais on va avoir le temps d'en parler. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Vamos España!
Vamos
España celebrando! Vamos!
Viva España!
La bonne balle vers Nico Williams, c'est le but! Le but espagnol, la reprise parfaite de Nico Williams! Elle passe entre les jambes de Jordan Pickford!
Nico primero de España! Nico primero de España!
Primera para Marco Cunella, Cunella que puede poner el centro al interior del área!
¡Oye, oye!
Championne d'Europe pour la quatrième fois de son histoire!
La consécration du beau jeu, le sacre de l'Espagne hier soir à Berlin enchante la presse ce matin sous le charme de la meilleure équipe du tournoi, peut-on lire? Et c'est vrai que ce n'est pas toujours le football spectacle qui est couronné, n'est-ce pas Thibaut Courtois, si on peut penser à quelqu'un. En tout cas, cette équipe joyeuse mérite des titres élogieux. À Madrid, la capitale qui attend ses champions en fin de journée. Ils sont déjà arrivés à la mi-journée à l'aéroport, mais ils vont ensuite retrouver les supporters dans les rues de la ville. Marca félicite une invincible armada et la voit comme la quatrième merveille, allusion bien sûr sûr à son 4e titre continental. À Paris, l'équipe salue en une les nouveaux rois d'Espagne. Et pour le Times de Londres, eh bien, l'Espagne brise le cœur de l'Angleterre. Mais si certains en doutent, il y a les chiffres aussi qui le prouvent. 7 victoires en 7 matchs, 6 fois sur 7 dans le temps réglementaire. Et cette équipe a inscrit 15 buts avec les meilleurs joueurs du tournoi. On espérait une belle finale quand on a fait l'émission vendredi, Manu. Surtout, la deuxième mi-temps hein, l'a été. Est-ce que vous avez eu peur quand même durant ce match ?
Oui, surtout avec l'égalisation. Hein. Moi, j'étais beaucoup... Ouais, non, c'est vrai que j'avais un peu plus peur de la France avant les matchs. Une fois que tu as battu l'Allemagne et la France, je crois que tu peux être optimiste, entre guillemets. Mais surtout parce que peu importe ce que tu as montré pendant les tournois, c'est une finale et c'est une équipe qui, même s'ils ne sont pas très bien joués, ils sont des joueurs comme Bellingham, comme Foden, comme Kane. Donc c'est vrai qu'avec l'égalisation et surtout parce que l'équipe espagnole au niveau physique, les dernières 20 minutes, ils se galèrent toujours un petit peu. C'est pas que j'avais peur, mais que quand même on voyait cette possibilité. Mais finalement, l'équipe a fait ce qu'il a fait tous les tournois, c'est joué très bien et ils sont sous-marqués et je crois que c'est un prix mérité pour l'équipe espagnole.
On parle de la meilleure équipe du tournoi, vous êtes d'accord aussi Alejandro ?
Je pense que tout le monde est d'accord, en tout cas la qualité du jeu était du côté espagnol, du début jusqu'à la fin, ça c'est incontestable et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir la meilleure équipe remporter les tournois, donc ça fait forcément plaisir et c'est une double satisfaction je pense pour ces Espagnols qui étaient arrivés, c'était pas vraiment des favoris. Au départ, il y avait beaucoup de joueurs qu'on connaissait
jeunes,
beaucoup moins bien, à part Rodri et Carvajal.
Ils étaient dans les favoris.
Non, c'est vrai.
Il y en avait 4 avant eux, au moins, la France, l'Allemagne,
ils étaient candidats,
l'Angleterre,
mais pas favoris, je crois que
le Portugal.
Pas loin des favoris, quand même.
Oui.
Pas loin,
mais
un
deuxième niveau, troisième niveau.
Il y avait la France, l'Allemagne. Au niveau effectif, il était quand même loin derrière d'autres équipes qui avaient des joueurs beaucoup plus connus, beaucoup plus
prêts. Et moins expérimentés. Bruno, cette finale, finalement... On peut se dire quand même qu'on dit la meilleure équipe a gagné. C'est vrai que les Anglais, on va y revenir après en détail, mais ils étaient arrivés là un peu miraculés aussi. Alors, parce que je dis qu'eux, ils sont qualifiés 6 fois sur 7 dans le temps réglementaire. Mmh. Et en plus, ils ont inscrit beaucoup de buts. Hein, c'était 15 buts dans la compétition. 7 matchs, 7 victoires, ce n'était pas le cas de l'Angleterre.
Non, autant l'Espagne, c'est une évidence et logique. Autant l'Angleterre, ça a été laborieux, chaotique. Ils sont passé tout près de la correctionnelle face à la Slovaquie sans un exploit de Bellingham à la dernière minute. Contre la Suisse au tir au but. Même les Pays-Bas, c'était un but en fin de match dans le temps additionnel. Il n'y avait pas d'évidence pour l'Angleterre, qui était pourtant annoncée comme un des grands favoris, mais qui a un peu perdu son football, qui était, comme beaucoup d'équipes, j'ai trouvé très fatigué, enfin des individus très fatigués. Et à un moment donné, il faudra se poser les bonnes questions sur ce qui se passe au niveau du football européen. Mais au moins, avec l'Espagne, c'est le jeu qui a gagné. C'est aussi l'équipe, les individus qui ont le moins joué durant la saison. J'ai regardé le nombre de titularisations des 11-12 joueurs. Fabien Ruiz, Dani Olmo, c'est 25 matchs débutés. Nico Williams, c'est Yamal. Donc, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Après, moi, je suis content que ce soit qui a gagné parce que ça fait du bien que le beau football gagne.
Chérif, cette finale, c'était à peu près ce à quoi vous vous attendiez ?
Oui.
Parce que la première mi-temps, il n'y a pas de but. Hein, les 3 viennent dans la deuxième. Mais c'est vrai que c'était en même temps très tactique, une observation et une finale en jeu, un trophée.
Oui, en fait, pour régler le petit débat favori, pas favori, dès le premier match contre la Croatie, l'Espagne, c'est tout de suite, rappelez-vous, 3-0, c'est le premier match. Là, on a vu que l'Espagne ne serait pas loin. Donc voilà, pour en revenir à la finale, bon, évidemment, on s'attendait tous à une victoire de l'Espagne qui était supérieure techniquement. Ce que je redoutais, c'était un inévitable retour des Anglais, et parce qu'au moins, s'il y a une qualité alors vraiment immémoriale des Anglais qu'on retrouve en rugby, enfin dans tous les sports, c'est leur combativité. Ça, on ne peut pas leur enlever.
Fighting spirit, hein, comme on dit.
Miracle en fin de match qui sauve l'Espagne.
N'oubliez pas, quand il y a 1-1, il y a deux actions assez phénoménales de Bellingham. Il y a le tir en pivot, elle passe à ça du poteau. Ensuite, il y a la balle qui donne à notre ami là. L'avancante numéro 9 qui est rentrée.
Watkins.
Voilà, c'est ça. Et ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est que l'Espagne, c'est une équipe action-réaction. Enfin, qui peut prendre les devants très rapidement, mais qui a su réagir. Ils ont su réagir, par exemple, contre l'Allemagne en prolongation. Et là, je me dis, mais ils vont galérer contre les Anglais. Non, ils ont fait rentrer qui fallait rentrer. Et ils ont fait la différence.
Ils ont su réagir aux événements. La blessure de Pedri qui a fallu remplacer, la blessure de Rodri à la mi-temps. Quand Rodri sort à la mi-temps, tout le monde se dit en Angleterre, ah, ça y est, c'est le tournant.
Le meilleur joueur du tournoi, en plus.
Petite inquiétude quand Rodri est sorti.
Il n'y a pas que du beau jeu dans l'équipe espagnole. Il y a aussi une force mentale, une force de caractère qui est assez impressionnante.
Tu as les Carvajal, ouais.
Alejandro.
Moi, ce qui m'a impressionné un peu dans ces duels, c'est la difficulté des Anglais à jouer sous pression. Les Espagnols étaient très agressifs sur les porteurs du ballon, très présents, ils faisaient un pressing efficace. Et moi, je m'attendais mieux des Anglais à ces conditions de jeu, quoi. Je pense qu'ils avaient beaucoup de mal à faire circuler la balle sous la pression des Espagnols.
C'est ce qui est ressorti en Angleterre et c'est ce qui étonne quand on voit la qualité des joueurs qui composent l'équipe, quand on voit que ces joueurs-là évoluent sous Jürgen Klopp ou sous Pep Guardiola ou Arsenal avec Arteta où ils sont habitués à ce jeu-là. Et la tactique de Southgate, c'était d'allonger par Pickford sur Harry Kane, sauf qu'Harry Kane ne prenait pas un ballon. Et que c'est vite compliqué quand on se retrouve à jouer à 10. Quoi.
En tout cas, c'est vrai que les Anglais, ils avaient été plusieurs fois menés dans la compétition. Ils étaient revenus au score, ils s'étaient qualifiés. Donc, c'est vrai que quand l'Espagne ouvre le score, on se dit, mais les Anglais peuvent encore et c'est ce qu'ils vont faire. En tout cas, la meilleure équipe, donc avec les meilleurs joueurs, on disait Rodri, un meilleur joueur du tournoi. Meilleur jeune joueur, évidemment, on l'a tous vu, c'est un certain Lamine Yamal, le Barcelonais. Et puis, il y a aussi Nico Williams, hein, son complice. On les a vus se rouler sur la pelouse ensemble. Hier soir de bonne heure. Écoutons-le, Nico Williams, au micro de Carlos Pizarro.
Je suis super heureux, c'est historique. Il faut que tout le monde profite de ce moment, d'autant que nous allons fêter ce titre. Il va se passer du temps avant qu'une sélection arrive à gagner autant que nous. Espérons qu'au prochain tournoi, ce soit pareil. Mais on va avancer peu à peu et il faut continuer à travailler.
Vous parliez de Lamine Yamal vendredi comme étant le nouveau roi d'Espagne, on en avait ri. Le roi qui était là d'ailleurs, hein, on l'avait bien imaginé. Et Manu, il y a aussi Nico Williams. Est-ce qu'on peut distinguer l'un de l'autre finalement?
Je crois que c'est l'une des clés de cette Espagne. C'est la façon dans laquelle les deux jouent bien ensemble, même si c'est chacun d'un côté, mais aussi la complicité. On les voit souvent sur les réseaux sociaux faire des blagues, danser, etc.
Et on le voit sur le terrain, cette complicité.
Oui, exactement. Je crois que c'est normal, si tu passes du temps avec quelqu'un, à un moment donné, tu arrives à deviner ce que l'autre personne pense. Et pour moi, c'était la clé. Évidemment, on avoue que Williams, il a 22 ans, donc physiquement, il est un peu plus développé que Lamine Yamal. On parlait des manques des matchs comme titulaire. Je crois que Barcelone, ils sont bien gérés un joueur qui avait 16 ans et là maintenant 17, donc on ne peut pas lui faire jouer, ça c'était vous déjà avec Pedri, tu ne peux pas faire un jeune joueur jouer 50 matchs par saison. Donc je crois que c'était très bien géré et puis les seuls soucis avec Yamal, c'est que les buts marqués contre la France, ça fait qu'un peu tout le monde s'est...
Le plus beau but du tournoi.
Mais lui regarde et je crois qu'hier il était un peu comme... Il avait un peu de pression en pensant que tout le monde attendait quelque chose de lui. Par contre, ça a libéré un peu Williams qui a fait un match magnifique. Pour moi, si on voit toute la compétition, il était mieux que Lamine Yamal. Mais tous les deux, c'était magnifique.
Est-ce qu'on peut parler d'une génération De La Fuente en Espagne?
Oui, tout à fait. C'est un entraîneur qui est arrivé à l'équipe nationale. D'abord, il était entraîneur des équipes de jeunes joueurs de l'Espagne. Donc, c'est lui qui connaît très bien les joueurs. Et comme Yamal, comme Williams. Mais...
Il a été champion avec les jeunes, justement.
Exactement.
Donc, une démonstration, c'est en U21 en 2019.
Exact.
Ils battent l'Allemagne, ils étrillent la France 4-1 en demi-finale. Il y avait déjà Ruiz, il y avait Olmo. Ils étaient déjà là.
Oui, c'est ça. Ouais. Il connaît très bien. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, la blessure de Pedri, on n'était pas trop inquiet parce qu'on savait qu'on avait Olmo et que De La Fuente savait quoi faire avec lui, où les placer, etc. Et ça fait du bien aussi parce qu'il était énormément critiqué. La façon d'arriver, c'était un entraîneur qu'on ne connaissait pas trop. Il venait un peu avec l'étiquette Rubiales, l'ancien président et toute la polémique. Donc, en fait, il y avait du monde.
On attendait qu'il allait partir
plus tard. Et finalement, il est resté. Et il a su profiter de cette équipe. Et il a fait que l'équipe grandit, déjà. C'est une équipe qui a gagné aussi la Ligue des Nations. Mais il a fait aussi grandir les joueurs. Qu'on a vu Yamal, Williams, Olmo, mais aussi Cucurella et... Fabian, au début de saison, on ne dirait pas qu'il allait avoir ce niveau. C'était lui qui a mis tout ensemble.
Et d'ailleurs, As, aujourd'hui, s'amuse un petit peu et dit en anglais « It's the beginning », c'est le début. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une génération nouvelle. Olmo, par exemple.
Ouais, mais il suffit,
Shérif.
Il, il,
on l'a vu en Bundesliga.
Bah, il suffit de le suivre en Bundesliga.
Voilà, David Lortolari nous en parlait régulièrement.
C'est très concurrentiel. Ouais. Attention, Leipzig, ça joue déjà super bien. Bon, alors, comme tu dis, il n'a pas fait une saison complète. Mais quand il rentre, il est souvent décisif. S'il y a tous ces joueurs polyvalents, ils peuvent être relayeurs, ils peuvent être tour à tour meneurs de jeu, puis même des fois marquer des buts. On l'a vu avec Olmo, avec Fabien Ruiz. Et moi, ce que j'ai aussi aimé en tant que sélectionneur, c'est les sélectionneurs qui arrivent à aller au-delà des gros clubs qu'on leur impose très très souvent. Là, c'était pas la sélection Barça-Real. Mmh. Il y a cinq joueurs de la Real Sociedad et trois joueurs de Bilbao. C'est-à-dire, on prend les meilleurs à l'instant T. Et c'est ces joueurs-là, parce qu'ils sont en forme, qu'on va prendre. Ensuite, tout le reste, c'est cohérent. Un ailier à droite, un ailier à gauche, un vrai numéro 9 qui décroche un peu. Deux relayeurs, un numéro 6. Tout est cohérent.
C'est le 4-3-3 habituel qu'on connaît du football espagnol. Mmh. Mais ça va même au-delà. J'avais fait la comparaison aussi entre l'Euro 2012, il y a 10 joueurs sur 11 qui sont Barça-Real. Voilà. Et aujourd'hui, tu n'en as que 2 au coup d'envoi.
Absolument.
3 joueurs Real Madrid dans l'effectif et 4 joueurs Barcelone. Voilà.
Et au coup d'envoi, il n'y en a que 2. Et aussi les joueurs expatriés, les joueurs à Chelsea, à Leipzig, à City, qui apportent aussi une autre couleur, un autre ADN. Et quand on entend les sélectionneurs, et notamment en France, qui nous expliquent que sur des rassemblements de 8-10 jours, c'est compliqué de mettre un jeu en place, qu'on ne les a pas souvent, on les a tous les 2 mois, bah lui, en l'espace de 15 mois de La Fuente, il a construit une équipe avec une vraie identité de jeu. Donc c'est possible.
Alejandro Haas disait aussi « La sélection espagnole peut regarder tout le monde de haut. 12 ans après, le football revient. » Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 12 ans?
Disons qu'on a eu la fin d'une histoire.
Est-ce que c'était la fin d'une génération ou c'était aussi un entêtement parfois sur un style de jeu?
Je pense qu'il y a peut-être un entêtement, mais je pense qu'il y a eu surtout la fin d'une génération. Et puis, c'est toujours compliqué. Il faut chercher un nouveau modèle. Ce qu'on nous dit sur la puissance de gros clubs, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était vrai, il y avait une grande présence, mais il faut penser qu'aujourd'hui, par exemple, un club comme le Real Madrid qui va faire signer Mbappé, qui a plein de stars internationales, etc., un joueur comme Lamine Yamal n'aurait jamais pu émerger à cet âge au Real Madrid, ça c'est clair. Mm-hmm. Barcelone l'a fait parce qu'ils ne pouvaient pas recruter. Probablement, s'ils avaient eu le moyen de recruter, ils n'auraient pas mis aussi vite des joueurs comme Lamine ou comme Gavi ou quelques autres.
Le défenseur aussi là,
qui a été écarté au dernier moment du groupe. Mm-hmm. Il y avait Fermin qui était sur le banc. Donc, il y avait quand même... Mais au Real Madrid, par exemple, ce serait impossible aujourd'hui.
Donc c'est
je ne joue pas.
Mais le Real apporte son ADN de Grinta avec des Carvajal, des Nacho.
Est-ce que ça veut dire qu'ils vont dominer le football comme ils l'ont dominé de 2008 à 2012?
Un peu tôt pour le dire, parce que là, l'Euro, on est obligé de constater aussi que les grandes nations étaient très fatiguées. En tout cas, les grands joueurs de ces grandes nations étaient fatigués.
Décivé, on peut le dire.
Moi, j'ai du mal à penser que la France, qui pour moi passait à côté de son tournoi, elle n'a pas plus de talent que l'Espagne. L'Angleterre, peut-être que si elle est mieux dirigée, elle a un potentiel plus élevé. L'Allemagne revient bien, le Portugal est costaud.
C'est l'Allemagne aussi.
Mais l'Espagne a créé un peu la surprise, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient peu connus, justement.
On était arrivé avec une star que c'était Rodri.
Et aujourd'hui, elle va être prise autrement à l'avenir. Déjà, à mesure que le tournoi avançait, on voyait qu'elle avait plus de mal.
Elle sera forcément parmi les favoris à la prochaine Coupe du Monde.
S'il y avait pénalty contre l'Allemagne, là, pour la main de Cucurella, peut-être que l'Espagne se serait arrêtée plus tôt. Donc, c'était plus difficile à mesure que la compétition avançait.
Manu, vous disiez, on est arrivé avec Rodri comme star et finalement...
On était arrivé avec une seule star, que c'est Rodri, je crois que je l'ai déjà dit sur RFI. Et on part avec plusieurs. On part avec Jamal, avec Nico Williams, avec des joueurs comme Nico Williams qui va partir l'été, Olmo. Et je crois que c'était la différence de l'Espagne par rapport aux autres. On n'avait pas un Mbappé, Dembélé... On n'avait pas un Wirtz, on n'avait pas un Harry Kane. Et ça, c'est commencé à développer. Mais évidemment, ils sont, je trouve, encore loin. Dire que Yamal est à le tour de Mbappé ou Nico Williams.
On se demande le statut de Fabian Ruiz à la rentrée au PSG. On ne peut plus le mettre sur la touche ou lui faire jouer.
Il y a les supporters qui ne savent pas quoi faire maintenant, les supporters du PSG.
On a vu le talent, là.
Alors, l'Angleterre, la malédiction again. Damnation, on dit.
The curse.
Ça devait être la redemption, mais là, c'était plutôt la tête dans le seau. Hein.
En tout cas, 58 ans d'attente. It's not coming home. Il faudra attendre encore au moins peut-être 2 ans pour ce qui est du prochain mondial. Oui. Harry Kane disputait sa sixième finale et il a donc perdu avec tous ses camarades hein, cette deuxième opportunité à l'Euro. Il était inconsolable.
Difficile de trouver les mots et de dire ce que je ressens. C'était un match compliqué. On a réussi à revenir. On pensait pouvoir doubler nos adversaires. Mais prendre un but comme ça en fin de match, c'est difficile à encaisser. Je ne sais pas quoi dire. On est toujours arrivé à se transcender dans le tournoi. On a montré la résilience, mais une fois de plus, on bute sur la dernière marche. L'Espagne a très bien joué. Et on pensait arriver à l'emporter. C'est une opportunité manquée et ça n'est pas facile d'atteindre ces finales. Il faut saisir la chance quand elle se présente à nouveau. Nous n'avons pas réussi à le faire. C'est douloureux et ça va faire mal pour moi.
Un bon résumé hein, de ce que devait ressentir toute cette sélection, Gareth Southgate. On l'a entendu aussi, c'était à peu près dans la même tonalité. Mais est-ce que Harry Kane, c'est le symbole de ce naufrage en Angleterre, Bruno ?
Ça serait un peu facile de dire que c'est le symbole parce qu'au-delà de l'équipe d'Angleterre, il n'a jamais rien gagné. Les autres ont gagné. Au coup d'envoi, c'est le seul des 11 joueurs anglais qui n'avait jamais gagné un trophée. Ils ont tous gagné au moins dans leur carrière un petit trophée. Et lui, ça le poursuit. C'est vraiment pour lui, en train de se demander, c'est pas une malédiction, parce qu'il avait rejoint le Bayern Munich, qui gagne toujours, et cette année-là, il gagne pas.
Non, il va finir par
gagner. Mais après, les problèmes anglais dépassent Harry Kane, même si sur cet Euro, Harry Kane, il a symbolisé la fatigue, le fait que rien n'allait dans son sens, et qu'il a fini par être remplacé à l'heure de jeu par son entraîneur. Donc c'est un drôle de symbole. Mais ses coéquipiers n'ont pas été nettement meilleurs non plus. Ils n'ont jamais trouvé la bonne formule, ils n'ont jamais trouvé le jeu qui était leur force, notamment en 2022, où ils ont été plutôt impressionnants face à l'équipe de France. Là, il y a quelque chose qui a disparu. On a l'impression que Gareth Southgate, il a perdu la main. C'est peut-être d'ailleurs la fin d'une ère, on va voir. Il est en fin de contrat en décembre, il se pose des questions. Lui serait plutôt partant, la fédération anglaise voudrait le garder.
Mais y a-t-il beaucoup d'entraîneurs anglais
Pas beaucoup.
Sélectionneurs
pas
oui,
beaucoup.
Hein.
Anglais, non.
C'est le problème anglais, il n'y en a que
on
deux.
Dit que, oui.
Il y a Graham Potter qui est disponible, et puis il y a Eddie Howe du côté Newcastle qui lui a de la vraie qualité. Mais ils ont pu s'apercevoir que prendre le poste de sélectionneur de l'Angleterre, c'est aussi beaucoup de critiques et très difficile à vivre.
Il faut être solide. Oui. Cette équipe anglaise, finalement, ils étaient quand même arrivés là, hein, on le disait, un peu miraculés. Après,
aidés par un tableau un peu plus favorable aussi.
Il faut gagner pour arriver, la France n'a pas fini première du groupe.
Déjà, c'est pas mal parce qu'il faut remonter aux années 90 pour voir une équipe d'Angleterre qui approche le dernier carré. Ça, on en avait perdu l'habitude. Et là, depuis quelques années, ils sont là. Et je pense que ça va créer une émulation à force de traîner dans le haut du panier. Je pense qu'ils vont peut-être finir par y rester. Après, intrinsèquement, on se leurre un peu sur cette équipe d'Angleterre dans le sens où il n'y a pas vraiment de grands joueurs de classe internationale. Moi, j'en vois que trois. Je vois
Kane. Il y en a quand même trois, c'est quand même pas mal pour une équipe.
Non, mais c'est pas mal. Non, mais c'est bien.
Bellingham, mais... Kane, Foden, c'est quand même des grands joueurs.
Ah, je ne mets même pas Foden. Moi, je mets Kyle Walker, Harry Kane et Bellingham. Mais c'est bien, c'est pas mal. C'est...
Foden, c'est
après,
aussi...
Ouais, Foden, c'est la consécration cette année. On savait que c'était un bon joueur. Mais classe internationale, moi, je ne sais pas s'il aurait sa place partout.
Il était beaucoup plus connu que plusieurs joueurs de l'Espagne, déjà.
Donc, Foden. Je pense que cette équipe d'Angleterre, fondamentalement, on la voit trop belle. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe. C'est un peu le problème de l'Italie, mais en moins pire. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs de complément. C'est-à-dire qu'à part Bellingham, qui est vraiment, on peut dire, presque un taulier au Real Madrid... Tous les autres, c'est des joueurs forts dans une équipe, mais ce n'est pas des leaders comme il peut y en avoir, par exemple, un Rodri à Manchester City ou alors, je ne sais pas, un Van Dijk à Liverpool. C'est vraiment des joueurs d'abord de complément.
Alejandro, cette équipe d'Angleterre, on l'a dit maudite. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que cette fameuse dernière marche...
C'est les conséquences de la main de Dieu, ça.
Je ne crois pas, non.
Ça remonte à loin, ça.
Je pense que l'Angleterre, enfin, vu par moi, par un Argentin, c'est toujours les maîtres. Enfin, c'est les inventeurs du football. C'est l'équipe qu'on a toujours envie de battre, qu'on a toujours envie d'affronter, qui a le prestige d'avoir créé ces sports et de l'avoir
codifié.
De l'avoir exporté aussi, parce que c'est les Anglais qui ont amené ce sport à l'Argentine. Donc, il y a toujours un attachement, il y a une sorte d'amour-haine, mais toujours envie d'en découdre. C'est une équipe qui nous inspire.
On l'avait mise parmi les favoris dans cet Euro, Manu, et en même temps, on les voyait peiner à chaque fois, en dépit de des bons choix, même parfois du sélectionneur. Cole Palmer, c'est lui qui marque le but d'égalisation. Ouais. Watkins, on se souvient, c'est lui qui marque le but qui va les qualifier ensuite. Donc, c'était en même temps un peu fascinant de les voir.
Moi, en fait, surtout en Espagne, je crois qu'on ne les mettait pas parmi les favoris. On avait pas mal de doutes par rapport à Gareth Southgate, parce que c'est un peu la même histoire qu'avec la France. Vous, les talents qu'il doit, pour moi, ils sont beaucoup, beaucoup de talents. Il n'arrive pas à créer une équipe. Après, c'est aussi des choses qui se passent quand on parle des championnats comme ici. Il y a les équipes qui jouent très bien, qui arrivent loin. Il y a aussi des équipes qui profitent de la chance, profitent du fait que la France est de l'autre côté, du tableau, etc. Mm-hmm. Et ils arrivent... Moi, franchement, moi, je n'attendais pas qu'ils arrivent si loin, pas du tout. Et j'ai regardé surtout vers Gareth Southgate, parce que je crois qu'au niveau d'effectif, ils sont en capacité. Je crois qu'il faut un déclic. De la même façon qu'on l'a eu en Espagne, quand on a battu l'Italie au tir au but lors du championnat
d'Europe. Peut-être contre les Pays-Bas, peut-être, quand ils ont battu les Pays-Bas à la dernière minute. Moi, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose, peut-être,
d'étincelle. Il faudrait peut-être une victoire face à une équipe un peu plus forte, disons peut-être l'Allemagne, vu qu'ils étaient aussi parmi les favoris. Je crois que l'Angleterre manque d'un déclic pour libérer tous ces talents.
En France, on l'avait eu en 84 avec l'Euro, et puis après, il a fallu attendre 98. C'est vrai qu'il y a un déclic donc, qu'on attend du côté de l'Angleterre. En tout cas, cette il a été suivi de très près, du premier jour au dernier, par notre envoyé spécial qu'on va retrouver une dernière fois.
Antoine Grenier,
c'est live von der 2024 Euro in München.
On n'a pas pu résister, Antoine. Bonjour.
Ça m'étonne pas de vous, Annie. Bonjour, Annie. Bonjour tout le monde et bonjour, bonjour spécial à mon effet, à moi.
Bonjour, Antoine.
À nous tous, il le reste. Antoine, vous avez dû entendre, on est revenu sur cette finale et sur la victoire logique et méritée de l'Espagne. Moi, je voulais avoir un petit peu votre regard sur l'ensemble de la compétition, que vous nous racontiez un peu en quelques instants. Mais comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Est-ce que c'était une belle fête en Allemagne? On a entendu qu'il y avait énormément de monde dans les fan zones. Il y a eu cette fameuse vague orange. Il y a eu toutes ces supporters qui sont venus quand même en masse du côté de l'Allemagne.
Oui, clairement, ça a été un succès populaire assez énorme. Et d'entrée de jeu, dès la première journée et ce match d'ouverture, on a vu des dizaines de milliers d'Écossais qui avaient déferlé sur Munich et qui avaient mis une ambiance absolument extraordinaire à base de tambours et d'instruments folkloriques, on a envie de dire. Et ça avait tout de suite mis dans l'ambiance. Alors, c'était une ambiance qui était aussi un petit peu particulière pour moi parce que j'ai beaucoup roulé, donc j'ai vu beaucoup de stades différents et on voyait la différence d'ambiance selon les villes et comment les villes étaient organisées, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus dilué à Berlin, qui est une très 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 grande ville, même si c'était pour la finale que je m'y suis rendu, que à Munich où vraiment pour le coup les supporters se rassemblaient autour de cette fameuse place avec le carillon et la Rathaus, la mairie, et où là ils se retrouvaient tous et où vraiment la ferveur était extrêmement importante. Après, on a eu cette chance-là de commencer l'Euro avec des Écossais en feu et de les finir avec des Anglais qui, malgré la défaite avant le match, ont mis une ambiance comme ils savent faire dans les stades européens. Et puis mention spéciale aussi aux Néerlandais qui ont montré eux aussi qu'ils étaient un peuple de supporters voyageurs et capables de mettre des ambiances absolument magnifiques dans toutes les villes où ils ont pu passer, notamment Leipzig avant le match contre l'équipe de France.
Oui, et ben vous étiez notre reporter voyageur sur cet Euro et un mérite à vous d'avoir, je ne sais pas combien de kilomètres vous avez fait avec votre voiture.
5038 très exactement. J'ai pris en photo ce matin en garant la voiture à l'aéroport de Berlin au moment de décoller, mais c'était assez intéressant du coup parce que ça a permis de voir les différents stades qui sont des stades qui, pour le coup, c'est une compétition qui est allée un petit peu à contre-courant du gigantisme actuel prôné par la FIFA notamment et de cette Coupe du Monde au Qatar majestueuse où on avait construit des stades flamboyants qui servent plus à rien. Là, c'était des stades qui avait juste été rénové. On avait limite juste mis un petit coup de pinceau pour les remettre en état pour qu'ils puissent fonctionner. Et alors que ce sont des stades qui, pour certains, n'hébergent pas de grands matchs à l'année. Je pense à celui de Gelsenkirchen, dont le club est en Bundesliga 2, voire en 3e division, et qui est malgré tout un stade ultra moderne où on peut accueillir des compétitions. Donc l'Allemagne a prouvé à travers cette compétition-là, et malgré la déception de voir la Mannschaft s'arrêter qu'en quart de finale, l'Allemagne a montré ce que c'était que d'être un pays de football.
Merci beaucoup Antoine Grenier, Dankeschön ou muchas gracias. J'hésite entre les deux. Au Wiedersehen, ben, celui qui a dit au Wiedersehen d'ailleurs, c'est Thomas Müller qui a annoncé sa retraite internationale.
Et Toni Kroos.
Et Toni Kroos.
On a perdu des sacrés joueurs à l'issue de cet Euro. On a quand même des figures du football des 10-15 dernières années qui ont tiré leur révérence à l'issue de cette compétition-là. Et ça fait aussi partie de ce dont on se souviendra de cet Euro, de voir un Toni Kroos finir sur une défaite face à l'Espagne, certes futur champion. Mais c'est vrai que ça nous avait tous fait un pincement au cœur de réaliser que c'était le dernier match de cet immense champion.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Coup Antoine, et on vous quitte avec un hymne que vous avez dû entendre pas mal dans les stades d'Allemagne aussi. Merci beaucoup Antoine, et à très vite et à très bientôt pour nous et surtout pour les auditeurs.
À bientôt.
Il y avait une autre finale hier, et c'était une finale alors très tardive, hein, c'était pour les courageux, d'autant plus qu'elle a commencé très en retard, mais on va se transposer en Amérique du Sud où avait lieu, en Amérique du Nord où avait lieu la Copa América d'Amérique du Sud.
Otra vez para Paredes. Adentro para Lochenzo, Lochenzo para Lautaro, va Lautaro, va Toro, va Toro, va Toro. ¡El Toro! ¡Sí, carajo, Lautaro! ¡Gol, Lautaro, gol, Lautaro!
Argentina, champion du monde et maintenant double champion de la Copa América. Tout sourit à l'Albiceleste et l'équipe d'Argentine qui a remporté donc hier la finale à l'arraché quand même. Hein, un but à la 112e minute et sans son capitaine sur la pelouse. Les Argentins sacrés à Miami et comblés. Il y avait une foule de fous autour de l'Obelisco hier, Alejandro,
oui,
hein, comme d'habitude.
Dit... Miami, Amérique du Sud, et vous n'aviez pas forcément tort. On dit que Miami est la capitale de l'Amérique du Sud, souvent.
Mm-hmm. Et donc, et pas mal d'Argentins, d'ailleurs.
Il y avait une ambiance très sud-américaine et un Capharnaüm très sud-américain aussi, même si les Nord-Américains y sont aussi pour quelque chose.
Oui, oui.
Et puis, il faut savoir qu'en Argentine, c'est l'hiver. C'est un des hivers les plus froids des dernières décennies, avec des températures très, très froide. Mes amis me racontent les piscines gelées, etc. Et malgré ça, à 3h du matin, il y avait une foule indescriptible dans les rues de Buenos Aires. C'est la folie complète, comme d'habitude, là-bas.
Est-ce que c'était un beau match, Gérard Guémour?
Oui, dans le sens où l'Argentine, de toute façon, c'est ce qu'ils ont fait pratiquement dans tous les matchs. Ils ont pris le jeu à leur compte. Ils ont eu pas mal d'occasions. En tout cas, moi, j'ai pas vu les Colombiens vraiment inquiéter cette équipe d'Argentine. Et puis, il y a le goleador Lautaro, 5e but. Moi, j'ai suivi, hein, il a été assez régulier. Et pour le reste, l'équipe, c'est l'équipe de 2022, en 4-4-2 avec deux attaquants. On alternait entre Alvarez et Lautaro. Messi jouait tous les matchs de la première à la dernière minute. Donc, je pense qu'une partie...
Il a joué blessé quand même.
Voilà, sauf le troisième qu'il n'a pas joué. Mais sinon, on ne l'a jamais fait sortir. Et je pense que les larmes... Évidemment, il y a une vraie blessure.
Donc là, il sort à la 67e minute. Hein.
Je pense que la blessure réelle, je crois que c'est la blessure qu'il prend en première mi-temps sur le centre, sur le côté gauche. Mais je pense que les larmes aussi, c'est qu'en fait, il ne veut pas sortir du terrain. Quoi. C'est une blessure pour lui. Mm-hmm. Donc, c'est assez touchant.
Une vraie blessure.
Je pense que pour lui, il voit un peu cette fin des carrières un peu comme l'occasion de laisser un héritage. Et il veut que cet héritage soit le plus beau possible. Et il se sent un peu responsable du sort de cette équipe, même s'il est conscient que c'est bientôt la fin. Il évoque souvent ce sont les dernières ce sont les derniers matchs, c'est bientôt la fin. Il évoque tout ça.
Alors, Angel Di Maria a dit adieu à la sélection, mais pas lui. Et alors, il a allongé sa liste des records, parce qu'on connaissait à une certaine époque avec Cristiano, mais alors lui, il continue. Et résultat, alors, il est peut-être à tout jamais le plus grand du moment, après évidemment le roi Pelé et El Dios Maradona, mais c'est à son palmarès. 45 trophées au total. Il a dépassé
Alves,
le Brésilien, qui en avait 44. Et lui, notamment, une Coupe du Monde, deux Copa América, quatre championnats... quatre titres de champion, mais surtout en Liga. Ce sont 10 Ligas qu'il a remportées. 8 Ballons d'Or. Ça doit être 4 Ligues des Champions. 6 Souliers d'Or. Et bon, un nombre incalculable après
de Super
Coupe.
Les victoires avec l'Argentine sur le tard. Hein, c'est à la trentaine passée.
Exactement. Les deux dernières années, pratiquement. Hein.
Oui, c'est presque une remontada.
Non, mais tu vois, on a parlé de la malédiction de Kane. Mais Messi est passé à ça, la malédiction. Jamais un titre avec son pays.
Ouais. C'est Messi pour l'éternité.
C'est triste, hein. C'est triste de voir, moi, de le voir pleurer comme ça sur le banc. Il y a un enfant qui ont privé de football et il sent effectivement que c'est la fin.
À 37 ans, un grand enfant.
Et c'est triste. Après, peut-être qu'on reparlera des conditions dans lesquelles se sont déroulées la Copa, juste absolument scandaleuses.
On peut mettre un carton rouge aux organisateurs.
Messi, quand il se blesse sur ce match-là, c'est par rapport à la pelouse. Mm-hmm. C'est un problème de pelouse encore. Et Marcelo Bielsa, qui a une tirade extraordinaire sur les conditions de jeu. Et c'était pareil en Allemagne.
Et le contexte, le match, disons-le, la finale a commencé avec 1h20 de retard. Les joueurs s'étaient entraînés sur la pelouse, ont dû rentrer au vestiaire, ont dû se réentraîner. Et puis, on serait un peu cru au Stade de France pour ce qui était de l'organisation autour du stade.
Hein, mais pas que l'Afrique,
Stade de Miami.
Et puis, on a vu beaucoup de joueurs argentins qui étaient au téléphone pour essayer de localiser leur famille.
Leur famille, qui devait assister au match.
Au milieu des attroupements et dont ils étaient très inquiets et ça a pu perturber aussi.
Est-ce qu'on connaît l'origine exacte du problème pour rentrer?
Alors, il y
dans
avait des spectateurs sans billets qui essayaient qui passaient par différents. Ouais. Et donc, les responsables locaux ont décidé de fermer toutes les portes.
Même
et
ceux
du coup,
qui
la foule arrivait sous les cagnards. Et
34
tout le monde,
degrés.
C'est étonnant qu'il n'y avait même pas un tout premier checkpoint avant d'arriver au stade pour voir si toi.
Il n'y a pas qu'en Afrique,
pendant l'Euro, il y a eu des gros problèmes d'organisation, d'accéder au stade, de renseigner les supporters qui arrivent au stade, on savait pas où aller. Et on a discuté avec des gens de l'UEFA qui nous ont dit en off, l'UEFA nous a mis moins de moyens que pour les matchs de Ligue des Champions, alors que c'est un euro. Et visiblement, pour la Copa, l'organisation de la Copa, c'est pareil.
C'est la Comebol. Hein,
donc la FIFA et l'UEFA, qui s'en mettent plein les fouilles avec la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs que veut organiser la FIFA, il serait peut-être temps qu'ils se pensent sur l'organisation des tournois et qu'on arrête de faire des matchs qui coûtent de l'argent et surtout qui est en train de fatiguer les joueurs.
Ça parlait, c'est qu'il s'est passé à la mi-temps avec un spectacle de Shakira qui a duré une demi-heure et qui a obligé les entraîneurs des deux équipes à gérer tous ces temps entre les deux.
C'était aussi le côté américain qui influait là-dessus, parce qu'on n'a pas de spectacle en Europe encore au mi-temps, à la limite avant, mais pas là. Et c'est le pays qui va accueillir le Mondial des clubs l'été prochain, et là on peut penser à l'état des pelouses qui a été dénoncé, et il ne fallait pas trop le dire, sauf Marcelo Bielsa qui à un moment s'est vraiment énervé, et puis le Mondial à l'été 2026. Bon, on aura le temps d'en reparler de ces problèmes d'organisation, en tout cas vraiment carton rouge aux organisateurs, parce qu'il y avait eu le problème entre Uruguayens et Colombiens aussi, en dehors du stade, mais qui avait beaucoup causé de problèmes. Allez, un petit passage rapide par Madrid.
Tic-tac. 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 Empezamos.
On part pour une nouvelle vie et avec des nouvelles choses à faire, donc il y a beaucoup à faire.
Mbappé est muy famoso y la quiere ya.
Es el gran protagonista del día en esta tienda del Real Madrid. La camiseta de Kylian Mbappé ya está a la venta.
Donc, merci, continue bien, et puis, hasta luego.
Ça Cette fois, c'est la bonne, le tic-tac va s'arrêter car Kylian Mbappé est vraiment là, Manu. Sa camiseta numéro 9 est toute prête, d'ailleurs elle se vend déjà, on l'a entendu. C'est une grande fête qui est prévue demain à la mi-journée. On attend 80 000 personnes dans le stade de Santiago, pas pour un match, mais pour présenter Kylian Mbappé. C'est un jour de fête dans ce stade, on va dire futuriste, et où il va écrire son futur.
C'est un jour de fête et surtout, je trouve, c'est un jour très très attendu. Parce que ce n'était pas les premières étés que le Real Madrid a essayé de recruter les joueurs, donc c'était attendu. C'est vrai que vous, la dernière fois, il y a deux saisons, quand il a décidé finalement de rester, il y avait pas mal de supporters qui ont même insulté les joueurs. Et moi, j'étais convaincu de le moment qu'il dit « j'arrive à Madrid », il y a tout le monde qui va changer son avis. Et s'il reste encore quelques ans, dès qu'il marque son premier but, ils vont changer d'avis. Mais oui,
il faudra qu'il marque. Hein.
Oui, oui. Je crois qu'il ne devra pas tarder à aller se coucher parce qu'il doit arriver très, très, très tôt à Madrid, vers 8 heures, parce qu'après, il faut passer encore les tests médicaux, il faut la signature protocolaire. Et puis, et puis, à midi, on aura cette fête au Estadio Santiago Bernabéu, qui en fait a été aussi retouchée, on va dire comme ça, pour accueillir des gros événements. Donc, un joueur très attendu, d'un point de vue footballistique, mais aussi pour tout ça qu'il va amener au-delà de foot au club.
Et oui, alors, il a déjà en tout cas préparé sa nouvelle vie. On va l'écouter en version originale. Vous allez l'écouter, Mbappé.
C'est difficile d'avoir aujourd'hui. Queremos ir à la finale et ahora vamos a casa. España juega muy bien. Nosotros queríamos hacer mejor, pero España marca dos goles rápido y después es difícil de venir y marcar otra vez. Intentamos, pero al final...
Il parle bien déjà l'espagnol, Manu?
C'est une des choses qu'il a toujours dit en Espagne. Lui, s'il n'arrive pas maintenant, il arrive un peu plus tard. Toi, prends pas l'espagnol pour rester en France.
Pour
non,
rien.
Non, oui, oui. C'est une des choses en fait qui met en valeur de lui, c'est qu'il est bien, c'est bien préparé. C'est pas qu'un joueur de foot. Je crois qu'il est, toujours bien. Comme dit, il apprend les langues et il s'informe de tout ça qui passe autour de lui. Il y a une très bonne équipe qui lui informe de tout ça qu'il faut faire ou il faut dire ou de tout ça qu'il faut savoir. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très bien préparé au-delà aussi de foot.
La nouvelle vie en Espagne, Alejandro, il disait, hein, c'était au début de l'Euro, ça y est, une nouvelle vie m'attend. Il s'est beaucoup préparé pour ça, mais c'est sur le plan physique qu'on va se poser des questions. D'ailleurs, la visite médicale demain va décider si son nez mérite une opération ou pas aux yeux des médecins du Real Madrid.
Oui, bah, je pense que notamment. Le Real est habitué à accueillir des stars internationales et ils savent y faire et ils vont... faire tout pour qu'il se sente à l'aise et pour qu'il soit dans de bonnes conditions. On peut dire que la seule chose qui gâche un petit peu la fête, c'est qu'il aurait espéré arriver avec un aura un peu plus de vainqueur après un euro davantage réussi. Bon, sa fin de saison n'a pas été géniale et peut-être quelques supporters se sont posé des questions sur ce qu'il allait vraiment pouvoir apporter. Donc, à lui, maintenant, d'y répondre, de rassurer et de bien se préparer pour la saison prochaine.
En tout cas, on dit en Espagne maintenant qu'avant, c'était le contraire, mais que maintenant, c'est lui qui a plutôt besoin du Real Madrid que le Real Madrid a besoin de lui.
Ouais. Donc, il sera peut-être plus discret et plus humble. En tout cas, son maillot se vend 4 à 5 fois plus que celui de Jude Bellingham. Pour l'instant, ils en ont vendu 70 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal. Comment vous voyez cette arrivée de Kylian Mbappé comme une grande star au Real, Shérif ?
Comme l'a dit Manu, le contexte est assez favorable. Il parle l'espagnol, il a le Real dans son cœur. Et justement, au niveau des supporters, bon, il fait l'unanimité, malgré les petites bisbilles quand même. Parce qu'il a mis
c'est oublié, je suis sûr.
Voilà, ça, c'est parfaitement oublié. Et bah, on peut quand même aussi remercier le Real Madrid qui a mis son veto à la participation aux Jeux Olympiques de Mbappé. Il y a encore quelques mois, ça nous semblait possible. Et là, on se rend compte que c'était impossible. On ne peut pas faire l'Euro et les Jeux Olympiques.
Et une saison normale derrière.
Voilà. Mmh. Et voilà, ça, c'est la nouvelle dimension au Real Madrid. Voilà, on ne rigole pas. Non, on ne peut pas faire les deux.
Simplement pour ajouter, c'est lui qui, deux fois, lors de ses championnats d'Europe, conférence de presse, il a déjà parlé de la saison qui arrive après, qui c'est quand il dit qu'il sera bien. Il ne parlait pas de cette saison qui arrive, mais il dit... Le prochain été, je pourrais me préparer vraiment.
Un petit mot, Bruno, sur Kylian Mbappé.
Ben, moi, je ne suis pas sûr qu'il arrive dans les conditions idéales, justement, parce que physiquement, il n'est pas bien. Il sort d'une saison compliquée. Il a été remis en cause. Il arrive dans un contexte d'une équipe qui a déjà gagné, qui vient de gagner avec les champions. Lui, il n'a pas gagné. Il n'a pas de ballon d'or. Il a un Vinicius qui l'attend. Il a Bellingham qui l'attend.
Il y a mal dans l'autre club.
Il va falloir qu'il prouve qu'il mérite le Real Madrid.
Güler, Brahim Diaz, y a beaucoup de monde devant. Ouais.
Hein. On verra ça. C'est pas 70 000, c'est 7 000 exemplaires pour l'instant qui ont été vendus et la plupart en ligne pour l'instant. Non, mais ça va sûrement décupler à partir de demain.
180 euros, ça va.
Allez, on continue et on accueille un invité spécial dans cette émission. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Annie, bonjour à toutes
vous
et
êtes
à tous.
Vous n'êtes pas champion, vous, aujourd'hui?
Non, mais moi, je reste à Paris, contrairement à Kylian Mbappé. Je serai à Paris tout l'été pour vous accompagner durant les JO.
Exactement, parce que si Radio Foot part en vacances, eh bien, vous, vous restez là. Vous parlerez sûrement un peu de foot, parce qu'il y a aussi du foot dans les prochaines semaines. Mais vous allez surtout parler Jeux Olympiques à l'horaire de Radio Foot.
Exactement, Radio Jeux International... titre.
Jeu de mots.
Et pas, va pas trop déconcerter nos auditeurs.
Sympa, sympa.
Mais en tout cas, ça s'annonce très sympa. Bah, c'est pas votre idée. Allez, rendons, on a pensé à ça sans vous, figurez-vous. Radio Jeux International, ça prendra la place de Radio Foot la semaine et de Mondial Sport le week-end. Donc rendez-vous 16h10, temps universel, 18h10. Heure de Paris, ce sera à l'occasion évidemment des JO dans la capitale française. On commencera même un peu avant, et d'ailleurs certaines épreuves débuteront avant la cérémonie d'ouverture. Et bien nous, on sera là dès le 22 juillet. Alors on sera d'abord
lundi
dans
prochain.
Nos studios, dès lundi prochain, dans notre studio, celui dans lequel on est actuellement. On va démarrer tranquillement, on va vous faire vivre les premières épreuves, on va vous présenter un petit peu, on va planter le décor. Et puis dès le samedi, 27, eh bien on déroulera en direct du Club France à la Villette, pour ceux qui connaissent Paris, ouais, plutôt dans le nord-est. Et là, on sera vraiment au cœur de l'événement avec nos envoyés spéciaux, avec, on l'espère, des invités, des médaillés français. Hein, c'est par là qu'ils traînent dans le Club France. Tous les exploits, toutes les belles histoires, vous savez, dans les JO et particulièrement à Paris, dans la ville de Coubertin, l'important, ça peut être aussi de partir. Donc les derniers seront parfois les premiers dans Radio Jeux International. Parole aux supporters également, on entendra un petit peu l'ambiance qui animera ces Jeux de Paris. Donc 16h10 TU, alors je ne pourrais même pas vous dire que c'est du lundi au dimanche, c'est tout le temps, tout simplement pendant les Jeux,
du Jeux.
22 au 11 août. Hein, on sera là pour les dernières médailles, les dernières heures, les derniers exploits.
Mmh. Eh bien, ça sera à suivre donc dans notre horaire. Nous, on va vous dire... bonnes vacances. Merci beaucoup, Alejandro. Bah, vous reviendrez bientôt parce que bon, l'Argentine, elle est championne de temps en temps, mais vous pouvez revenir.
Bah là, on a une finale contre les Espagnols
dans quelques temps. Il faudra que tu viennes aussi à l'émission en espagnol.
Bah, il suffit de l'inviter, je crois,
oui.
En insistant beaucoup.
Je vais noter, oui.
Hein. Et puis, Chérif, merci beaucoup.
Bah, tout le
pour
plaisir
cette
était
saison.
Pour nous.
Bruno
tout
aussi.
Le plaisir était pour nous.
Oui. Manu, il faudra revenir dans Radio Foot. Et puis Hugo, vous reprendrez toujours le micro de temps en temps le lundi, hein, n'est-ce pas? Vous avez le rendez-vous avec nos auditeurs quand Radio Foot reprendra, hein, je dis bien.
Oui, bien sûr.
Ça sera
avec plaisir.
Il va
vous
plaisir.
Rendre les clés, apparemment.
Oui, oui.
Il faut se méfier, du coup.
On verra. Nous, on a besoin de s'arrêter un petit peu.
Non, moi, je fais juste le lever de rideau le lundi, et puis après, la tôlière déroule à partir du mardi. Juste préciser, Radio Jeux International ne sera que l'un des rendez-vous de RFI durant les Jeux. Le dispositif, il est magnifique, avec également Olivier Pron, qu'on connaît bien ici, sera là le soir. Et puis, on aura aussi une émission à la mi-journée que j'animerai, l'équipe olympique.
En tout cas, merci à tous, surtout, de votre fidélité durant la saison. Sur notre page Facebook, on a déjà désormais 802 000 amis. Et puis, on vous suit aussi à travers les cartons. Grâce à ces cartons, chaque semaine, David Finzel compte sur vous et notamment sur vous, les auditrices. Bon été à tous. Bonne désintoxication du football. Et puis, surtout, bonne Olympiade. Et on se retrouvera en direct pour Radio Foot le 19 août. En fin de semaine, il y aura la rediffusion de nos meilleures émissions. Merci à tous. Bon été. Bel été.